Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. Nous allons parler de la grève sur le réseau TER demain, en ce qui concerne notamment la ligne Mâcon-Lyon-Valence. Le groupe Cyclable, enseigne spécialisée dans la vente de vélos urbains et électriques, a été placé en redressement judiciaire. Le pont Général Leclerc à Fontaine-sur-Saône fermé à toute circulation motorisée suite à la découverte de fissures inquiétantes. Les militants et militantes qui ont travaillé dur pour la campagne des municipales à Lyon devraient être nombreux ce soir devant leur télévision pour le documentaire Jean-Michel Aulas, Le combat de trop, point d'interrogation. Documentaire réalisé par Antoine Comte et Charlotte Notgame. Antoine Comte qui sera notre invité dans cette édition.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. SNCF Voyageurs, TER Auvergne-Rhône-Alpes veut supprimer les postes de contrôleurs à bord des trains de la ligne Mâcon-Lyon-Valence. Conséquence, il n'y aurait plus que le conducteur dans ces trains. 25 postes de contrôleurs sont concernés, principalement basés à Perrache, mais aussi à La Part-Dieu et Valence. Les syndicats dénoncent un recul en termes de sécurité des circulations et de sûreté des usagers. La CGT cite l'exemple d'un départ d'incendie sur un TER en gare d'Estressin près de Vienne. Le 26 mars, un agent SNCF, autre que le conducteur, avait pu prendre en charge plus de 200 usagers. SNCF Voyageurs entend mettre en place sur cette ligne le contrôle renforcé, intervenant en brigade, des contrôles menés par plusieurs agents à l'embarquement ou au débarquement. Parfois, des agents de la sûreté ferroviaire et des forces de la sécurité publique sont également présents lors de ces contrôles. Selon SNCF Voyageurs, plus de la moitié des trains régionaux fonctionnent déjà sur ce modèle. Les syndicats de cheminots, CGT, Sudrail et CFDT ne l'entendent pas de cette oreille et appellent à une grève des contrôleurs et conducteurs ce vendredi. La circulation de certains TER sera donc perturbée demain. Nouveau coup dur pour une entreprise du cycle, le groupe Cyclable, entreprise spécialisée dans la vente de vélos urbains et électriques, a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon, développant un réseau mêlant magasins en propre et franchise. Porté par l'essor des mobilités douces et le boom du marché durant la période Covid, la marque a connu une forte croissance, atteignant plus de 80 points de vente en France et en Suisse. Mais depuis 2023, le secteur du cycle traverse un net ralentissement, une baisse de la demande, des stocks élevés et une pression accrue sur les marges. Cyclable entend par cette procédure se restructurer et assurer la pérennité de son activité. Le pont Général Leclerc à Fontaine-sur-Saône fermé à toute circulation motorisée suite à la découverte de fissures inquiétantes. Seuls les piétons et les cyclistes peuvent encore l'emprunter. Le service ouvrage d'art de la métropole de Lyon a constaté une évolution préoccupante de fissures déjà connues. Initialement restreinte aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes, la circulation a finalement été totalement interrompue pour les véhicules motorisés depuis hier en début d'après-midi. Des investigations complémentaires et la mise en place d'instruments de surveillance doivent intervenir rapidement afin de suivre l'évolution des désordres.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Les militants et militantes qui ont travaillé dur pour la campagne des municipales à Lyon devraient être nombreux ce soir devant leur télévision, et notamment les équipes ayant soutenu Jean-Michel Aulas dans sa tentative de conquête de la mairie de Lyon. Un défi relevé mais perdu par l'ancien patron de l'Olympique lyonnais, Antoine Comte, journaliste à France Info, après avoir longtemps travaillé à Lyon pour Tribune de Lyon, a suivi les coulisses de cette campagne durant près de 6 mois. Au final, un documentaire de 52 minutes entre meetings, débats et déambulations sur les marchés, mais aussi des moments plus intimes. Nous avons rencontré Antoine Comte et il nous explique pourquoi et comment il a pu suivre le candidat que tout prédestinait au poste de maire. Sur tous les sondages.
J'avais rencontré Jean-Michel Aulas en 2019, lorsqu'il était à la tête toujours de l'OL et qu'il avait construit son grand stade à Décines. Et ce qui m'avait interpellé lors de cette interview que j'avais menée avec lui, c'est qu'il m'avait dit « je veux laisser une trace à Lyon ». Et il parlait pas d'une trace sportive, pas uniquement en tout cas, il parlait d'une trace politique sans le dire. Et je lui avais posé la question suivante, mais on a l'impression avec tout ce que vous faites à Décines, vous n'avez pas construit qu'un stade, vous avez construit plein de choses, un laboratoire, une salle de spectacle, un centre de loisirs, des bureaux, que vous êtes... Vous faites déjà de la politique, que vous êtes un peu le maire de cette ville de Décines. Et il m'avait répondu oui, c'est le cas. Et là, je me suis dit, un jour, sans doute, qu'il va se lancer. Je sais pas quand, est-ce que une fois que Gérard Collomb sera parti, est-ce que voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, puisque une fois que Gérard Collomb a été battu et décédé en 2023, On a senti à ce moment-là un futur candidat qui s'inscrivait dans l'héritage de Gérard Collomb en disant « on ne peut pas laisser la ville aux écologistes », en gros. Et c'est parti après de ces tweets sur les embouteillages. Assez vite, les rumeurs ont commencé à progresser, à être entendues. Et là, je me suis dit « il faut que j'aille le voir, que j'aille voir ses équipes » et proposer de le suivre au quotidien pendant 6 mois de sa campagne si vraiment il se déclare. Et au début, ils ont vachement hésité. Puis après, ils m'ont dit « allez, on le fait ». Mais ça n'a pas été facile de les convaincre. Surtout, il y a eu cette incertitude pendant un certain nombre de mois ou de semaines en se disant « va-t-il y aller ou pas ?»
Un mot sur les conditions de tournage du film. Qu'est-ce qui vous a été autorisé, pas autorisé? Alors, comment ça s'est passé?
On avait un deal moral et oral avec eux. On n'a rien signé, mais c'est vrai que le deal, c'était on souhaite pouvoir le suivre au quotidien, pouvoir être avec lui dans les moments positifs comme dans les moments plus négatifs. Et donc ça veut dire être avec lui lors des soirées électorales, donc lorsqu'il apprend les résultats du premier tour et lorsqu'il apprend les résultats du second. Ça a été extrêmement compliqué parce que je pense que c'est une personnalité qui n'est pas justement un homme politique et qui sur le moment ne comprenait pas, ne saisissait pas l'intérêt qu'on soit avec lui. Après, on a réussi à obtenir d'autres choses en insistant un peu pour être poli et en saisissant une forme de rapport de force vis-à-vis de son équipe de communication parce que c'était elle qui tranchait au final, pour être avec lui dans des moments de confidence, par exemple dans sa voiture où il vient d'apprendre les résultats et donc on arrivait à finalement s'en sortir comme ça, être avec lui dans sa loge avant son meeting, quand il peaufine son discours, les dernières notes qu'il a prises pour pouvoir les prononcer à la tribune. Et en fait, je pense que la promesse d'être avec lui et de montrer des images inédites et de coulisses à ses côtés, elle est tenue. Ça, c'est clair qu'elle a été tenue. Mais comme dans toute campagne s'étendue, vous avez un candidat qui se crispe dans les moments clés et vous vous retrouvez finalement avec ce deal du départ qui n'est pas vraiment respecté.
Vous le dites, il a fallu négocier, donc négocier en l'occurrence avec cette agence 2017. Est-ce que ce n'est pas cette agence finalement qui a fait perdre Jean-Michel Aulas au municipal?
Il y a eu un procès qui a été fait sur cette agence sur le fait qu'il soit parisien et donc déconnecté des enjeux locaux et lyonnais, en tout cas qui ne maîtrise pas totalement les enjeux de cette troisième ville de France. Moi, je pense que c'est pas parce qu'on est parisien qu'on est mauvais et qu'on connaît pas les enjeux. Si on travaille, en fait, on y arrive. Je pense que le problème de cette agence de communication qui a donc conseillé Jean-Michel Aulas tout au long de cette campagne, c'est plutôt de l'avoir finalement trop materné, de l'avoir trop censuré et de ne pas l'avoir laissé être lui-même. Jean-Michel Aulas, il est bon quand il est lui-même. Il était bon quand il était président de la Cegid parce que c'était lui le seul maître à bord. Il était bon quand il était président de l'OL parce que c'était lui le seul maître à bord. Et la politique était un univers qu'il découvrait. Il s'est dit, je vais me baser sur des spécialistes qui vont me conseiller. Mais sauf qu'en fait, ils l'ont presque trop conseillé. Et jusqu'à des erreurs qui ont été décisives dans cette campagne, le fait finalement de lui dire surtout ne va pas débattre une nouvelle fois. Tu as raté le premier débat, ça ils l'ont tous reconnu d'ailleurs en interne, hein, élu comme conseiller, tu as raté le premier débat, mais maintenant que tu l'as raté, on n'a pas de temps pour vraiment te former à ça, tu viens pas du cercle politique, donc ne le fais pas. Sauf qu'en fait ça a montré un candidat qui ne veut pas aller au combat et qui se défile vis-à-vis notamment des Lyonnais qui l'attendaient au tournant pour savoir ce qu'il proposait clairement, notamment en termes de programme.
Est-ce que cette équipe et lui-même d'ailleurs n'ont pas trop justement capitalisé sur cette notoriété qu'il avait dans la ville?
C'est clair, ils ont capitalisé sur les très bons sondages. Je rappelle qu'il devait l'emporter dès le premier tour selon les premiers sondages. Il avait 20 points d'avance. Et puis, c'est vrai qu'il a une notoriété, une popularité incontestable. Ça, c'est clair. Mais en fait, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que dans le documentaire, on voit très bien un proche de Jean-Michel Aulas qui dit « L'objectif, c'était de transformer cette notoriété en vote. » Sauf qu'en fait, la notoriété, elle est importante parce que c'est une personnalité connue et c'est vrai qu'elle parle vis-à-vis des Lyonnais. Mais si derrière, vous faites pas campagne, vous n'avez pas vraiment de programme, vous l'expliquez pas, et quand vous tentez de l'expliquer, vous faites des erreurs, et en plus vous débattez pas, là en fait ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la notoriété ne suffit pas, et je pense que c'est ce qui s'est passé. Peut-être que si la campagne avait été plus courte, c'est-à-dire que si y avait eu un mois de moins, je pense que la notoriété aurait sans doute suffi, mais en fait on a vu un Grégory Doucet, son adversaire principal, le maire sortant réélu, qui lui s'est dit moi maintenant il faut que je l'attaque frontalement politiquement, et ça s'est inversé à ce moment-là où vous aviez un candidat, Grégory Doucet, qui faisait campagne, et un autre qui se planquait un petit peu et qui se disait ma notoriété, ma popularité vont suffire.
Ça veut dire que Doucet aujourd'hui est devenu un animal politique? C'était pas du tout le cas en 2020. Hein.
Alors je suis totalement d'accord, il a vachement appris en 6 ans, et en même temps 6 ans c'est long, mais on a senti notamment pendant le débat qu'il avait une vraie maîtrise des dossiers lyonnais, des dossiers municipaux, et on a senti un candidat qui en fait n'avait rien à perdre parce que les sondages le donnaient tellement perdant, et voire perdant dès le premier tour, qu'il s'est dit mais en fait moi il faut que j'aille au combat, j'ai rien à faire. Mais c'est vrai que oui, vous êtes 6 ans à la tête d'une ville, ville, forcément vous avez un temps d'avance en fait sur votre challenger qui lui fait de la politique depuis à peine 6 mois. En fait, c'est la primo sortant, et ça on l'a oublié, je pense que les sondeurs se sont trompés là-dessus. Tous les maires sortants sont plutôt favorisés habituellement parce que ils sont en place, ils connaissent leur réseau, ils connaissent le réseau associatif, ils ont des relais, ils ont les chiffres aussi de la ville, hein, sur le budget. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas demandait très souvent des audits, on s'en souvient, et en fait il part avec un temps d'avance, et en fait les sondages qui se sont trompés ont faussé ça. Je pense que Grégory Doucet, et on l'a vu au final, les sondages, même il y a finalement 3 mois, auraient été de le mettre plutôt au coude à coude en fait avec Jean-Michel Aulas, et là ça aurait pas été la même campagne.
La campagne, elle a été marquée aussi par des fake news, hein, certaines très concrètes, par exemple ces 800 vélos qui soi-disant se seraient évaporés dans la nature et qui en fait n'existaient pas. Pourquoi vous n'avez pas appuyé là-dessus?
Alors on l'a pas trop fait parce que déjà dans un documentaire de 52 minutes faut faire des choix, et en fait il y a plein de séquences qu'on a finalement...
C'est quand même marquant quand même.
Mais c'était marquant, et c'est vrai qu'on l'a pas fait parce qu'en fait on a préféré privilégier le moment du débat raté où en fait les approximations et voire certaines fake news aussi, parce que quand il dit si je fais un méga tunnel il y aura pas de travaux puisque ça va être enterré, bah c'est lunaire, c'est-à-dire qu'il faut rien maîtriser au dossier pour croire qu'il y aura pas de travaux apparents à l'extérieur, et que quand vous passez votre temps à critiquer la municipalité sortante en disant qu'il y a trop de travaux dans la ville et en fait vous faites un méga tunnel où il y aura des travaux partout, bah c'est lunaire. Donc ça montre une approximation, une non maîtrise des dossiers, et finalement aussi une forme de fake news où on affirme quelque chose qui est totalement faux. Donc ça, je pense qu'on a voulu montrer l'aspect je raconte pas forcément la vérité, ou en tout cas j'ai du mal à expliquer vraiment mon programme et mes éléments programmatiques de cette façon-là. Mais c'est vrai que vous avez raison, on aurait pu insister davantage sur aussi des tweets qu'il faisait qui étaient des fausses informations au tout début de la campagne, et peut-être même avant qu'il se déclare vraiment. C'est là surtout, moi je me rappelle de tweets qui étaient assez lunaires où notamment sur la circulation dans Lyon, il parlait de certaines voies qui avaient été supprimées, en fait c'était pas vrai. Enfin voilà, quand on se rendait sur le terrain et qu'on allait vérifier, en fait on avait presque envie de le croire quand on voyait le tweet, parce que c'était tellement affirmé qu'on se disait mais il a raison, mais en fait non, c'était pas vraiment la réalité. Donc je dirais pas qu'on a fait l'impasse là-dessus, mais en fait on a essayé de le montrer différemment, quoi.
L'erreur, ça a été aussi de créer une certaine bulle autour du personnage, hein, de la part de ses proches. On le voit notamment sur les marchés où finalement il a pas grand chose à dire, il parle des choux et des navets, quoi.
Ouais, je pense qu'en fait ils ont voulu faire une marque Aulas en se disant Jean-Michel Aulas est tellement connu, tellement apprécié après cette titre de champion de France, après tout ce qu'il a fait pour l'OL, masculin, féminin, que en fait ça va suffire, et donc du coup on va le protéger et on va faire cette bulle autour de lui. Et ça passe par on invite certains médias à certaines séquences mais pas d'autres, ça passe par finalement il fait une campagne mais à son rythme, où il prend peu de risques, c'est-à-dire qu'il distribue pas lui-même des tracts. C'est très bien dit d'ailleurs dans le film par Richard Schickli, mon confrère du Monde, où on a finalement un personnage qui est assez artificiellement construit. Et je pense que Jean-Michel Aulas, c'est l'inverse d'un personnage artificiel. C'est quelqu'un qui est hyper sincère, qui a un franc-parler, qui est très cash. Et c'est pour ça que moi, je ne l'ai pas reconnu durant cette campagne. Le seul moment où je l'ai reconnu, c'est peut-être pendant l'entre-deux-tours et qu'il fait cette conférence de presse où il attaque frontalement Grégory Doucet et les écologistes. Et puis moi, quand j'avais des moments un petit peu privilégiés avec lui, où il me disait des trucs qui étaient le Jean-Michel Aulas que j'avais toujours connu. Mais dès que c'était un événement public, un meeting, une conférence de presse avant l'entre-deux-tours, ou par exemple, je ne sais pas, une déambulation publique, un tractage sur un marché, là, moi, je ne l'ai pas reconnu.
Pour éviter les extrêmes, en 2027 à la présidentielle, il va falloir également un candidat comme ça de la société civile sorti de nulle part. Est-ce que ça va susciter des vocations, entre guillemets, un intérêt ou pas?
J'ai bien peur. Alors, je sais que ce qui s'est passé à Lyon est très regardé de très près par le national, par Paris, ça c'est sûr. Mais j'ai très peur que ce résultat, qui est finalement pas bon pour Jean-Michel Aulas, je parle du côté de la ville de Lyon, je ne parle pas du côté de la métropole, mais du côté de la ville de Lyon, puisque finalement la métropole, Jean-Michel Aulas dit qu'elle est gagnée grâce à lui, c'est vrai, mais elle est aussi gagnée vachement grâce au LR et aux maires de toutes ces villes qui sont passées au premier tour, Caluire, Rieux...
Et toujours par sa notoriété également.
Et voilà. Et je pense que moi, ça va plutôt freiner certaines vocations, par exemple de grands chefs d'entreprise ou de gens venant de la société civile qui ont une aura, hein, qui ont une popularité, qui sont connus des Français, mais qui vont se dire, vous vous rendez compte les efforts qu'il va falloir faire pour au final convaincre les Français, donc pour cette présidentielle de 2027, de voter pour moi, alors que j'ai pas vraiment les appareils politiques avec moi, alors que je fais de la politique depuis très peu de temps. J'ai peur que l'écueil, les difficultés rencontrées par Jean-Michel Aulas se retrouvent au niveau national par une candidature à la présidentielle de la sorte.
Allez, dernière question, le match de trop, le titre il a changé un petit peu, hein. c'était pas ce titre là au départ, vous l'avez changé évidemment en fonction du résultat. Le match de trop, point d'interrogation. Alors tout le monde peut y trouver sa réponse, peut y chercher sa réponse. La vôtre, c'est quoi?
Oui, alors déjà on a changé le titre parce qu'on pensait qu'il allait l'emporter, et en fait on a cru un peu bêtement les sondages comme tout le monde finalement, et en fait à chaque élection on oublie que les sondages et les sondeurs se trompent, donc je pense qu'on aurait dû se méfier davantage. Et j'essaierai de m'en rappeler pour un prochain scrutin, qu'il soit local ou national. Mais c'est vrai que on a choisi le titre Le Match de Trop parce que déjà il a sa carrière footballistique et on s'est dit que ça répondait bien parce que Jean-Michel Aulas, il est connu, c'est un nom qui est connu dans le foot et dans le sport. D'ailleurs, il est toujours très influent au sein de la Fédération française de foot et la Fédération féminine de foot. Et c'est vrai qu'on trouvait que le titre collait bien à la personnalité de Jean-Michel Aulas et de son passé de footeux, quoi. Mais c'est vrai que le titre a changé parce qu'en fait, la campagne a changé et on a dû s'adapter en se disant on passe finalement d'un ultra favori à finalement quelqu'un qui perd cette élection de pas grand chose, mais qui la perd quand même. Donc, cette question, le match de trop, parce que vous avez vu qu'on a mis un point d'interrogation pour poser la question, et en fait, on se questionne. Est-ce que c'est le match de trop, lui qui a tout réussi dans sa vie, que ça soit d'un point de vue entrepreneurial avec la Cegid, que ça soit sportivement, quasiment, même s'il y a eu des défaites à l'OL, mais quand même globalement, il a repris le club qui était en Ligue 2 et qui était pas très en forme pour en faire ce qu'il en est aujourd'hui. Là, on se disait, il veut finalement ouvrir une dernière page dans sa carrière, et c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment perdu, ou quand il perdait, il contestait les décisions de l'arbitre, on s'en souvient bien, et qui finalement se comporte un peu pareil aujourd'hui, parce que quand on regarde ce que disent ses proches ou lui-même, il n'a pas perdu, il considère qu'il n'a pas perdu parce qu'il a gagné la métropole et le pouvoir est à la métropole et le budget est à la métropole. Mais sauf que si, il a perdu son dernier pari qui était celui de devenir maire de Lyon.
Le documentaire sur les coulisses de la campagne d'Aulas sera diffusé ce soir sur Ici Auvergne-Rhône-Alpes, ex-France 3. Jean-Michel Aulas, le combat de trop, point d'interrogation, réalisé, je le rappelle, par Antoine Comte et Charlotte Notguet. On apprend le décès de Muguette Dini. Elle s'est éteinte à 86 ans, première adjointe à Écully de 77 à 95. En 94, elle est élue conseillère générale du canton de Limonest, fonction qu'elle gardera jusqu'en 2008. Élue vice-présidente en charge de la formation et de la jeunesse au département du Rhône en 98, Muguette Dini a organisé de nombreux voyages à Auschwitz pour les collégiens. En 2004, elle est élue sénatrice du Rhône, intégrant d'abord la délégation aux droits des femmes, puis elle sera présidente de la commission des affaires sociales, multipliant les propositions de loi sur des sujets autour de la protection de l'enfance, la lutte contre les violences faites aux femmes ou la loi sur la fin de vie. En 99, le patron de presse Paul Dini et son épouse Muguette avaient offert à la ville de Villefranche une impressionnante collection de tableaux à l'origine du musée ouvert en 2001, le musée Paul Dini. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la dernière édition de la semaine. Excellente journée à toutes et à tous.